Podcast. La première, du lundi au vendredi, 11h midi. Question clé avec Véronique Thiberghien.
On va parler de changement dans cette émission. On en parle régulièrement parce que c'est véritablement dans la tendance de la société actuelle, non seulement d'en parler, mais de montrer qu'effectivement, la société est en plein changement à l'heure d'aujourd'hui. Nous recevions il y a quelques semaines Pablo Servigne pour son livre consacré à la collapsologie. Collapsologie signifiant l'effondrement, mais il nous parlait surtout d'un effondrement positif. Par contre, cet effondrement, il a lieu maintenant. Il faut donc pouvoir encore changer, peut-être changer même un peu plus rapidement que ce que l'on fait. Et nous allons en parler dans un instant avec notre invité. Notre invité qui a fait sienne la maxime de Kennedy. Les problèmes du monde ne peuvent pas être résolus par des sceptiques et des cyniques dont les horizons se limitent aux réalités évidentes. Nous avons besoin d'hommes capables d'imaginer ce qui n'a jamais existé. Et nous ne faisons pas que l'imaginer. D'ailleurs, c'est déjà un changement qui est en mouvement aujourd'hui. Et vous le montrez à travers votre ouvrage, sans plus attendre, chez Carré Édition, Guy Berdal-Marmol. Bonjour.
Bonjour.
L'économiste que vous êtes s'est penché largement sur la question et offre la possibilité de découvrir ce qui se fait déjà chez nous et dans le monde. Et l'on voit à quel point, effectivement, ces frémissements ne sont plus tout à fait de l'ordre du frémissement et que l'on pourrait s'inspirer de ce qui se fait localement, parfois ailleurs, pour l'implanter chez nous. C'est ce que vous appelez la mondialisation de l'échange des savoirs. Et c'est un des aspects positifs de la mondialisation que vous avez vu en tant qu'économiste, mais aussi en tant qu'être humain et humaniste. Ce changement, sans plus attendre, il y a quand même un sentiment d'urgence.
Ah oui, je pense qu'il y a un sentiment d'urgence parce que quand vous regardez la une des médias dont vous faites partie, ben, tous les matins, on nous annonce ce qui ne va pas, ce monde en mutation, ces crises, mais derrière, ce que j'ai pu observer de partout dans le monde, c'est qu'il y a des millions de révolutions silencieuses, des gens qui n'attendent plus, qui se mettent en marche, qu'ils soient citoyens, entrepreneurs, entrepreneurs sociaux ou entreprises éclairées, simplement voulant se mettre au service. C'est là, dans tous les domaines clés de la société.
Qu'ils n'ont pas attendu justement que la société change pour changer eux-mêmes et initier ces mouvements de changement.
Oui, je pense qu'aujourd'hui, les États sont quelque part trop grands pour gérer les choses locales et trop petits pour gérer les choses globales. Donc, nos politiciens, ils ont du boulot à gérer la maison qui brûle. Donc, il y a de plus en plus de gens qui se disent, le système est peut-être au bout de sa logique, n'attendons plus, mettons-nous en marche, d'abord individuellement, puis collectivement. Il y a beaucoup d'initiatives collectives partout dans le monde, au niveau communautaire.
Des initiatives, et vous en relevez énormément dans votre ouvrage, un livre où vous nous exposez plusieurs visions pour assurer une meilleure durabilité de l'humanité. L'humanité urbaine d'ailleurs, parce que, on l'a déjà dit souvent dans cette émission, nous sommes en pleine urbanisation et d'ici quelques années, 70% des populations vivront au sein des villes, quelles que soient ces villes d'ailleurs. Il faut donc les repenser et vous les voyez beaucoup plus agricoles, ces villes.
C'est une des parties du problème. C'est vrai, vous l'avez évoqué. Déjà aujourd'hui, 50% de la population mondiale vit dans les villes. Donc ça fait 3,5 milliards de personnes. Et il y a un énorme problème. Un de mes propos dédiés, c'est de retrouver en tout cas l'autonomie alimentaire et énergétique. Vous prenez une ville comme Paris, vous coupez les chaînes logistiques. En 4 jours, il n'y a plus de nourriture dans la ville.
Oui.
Et donc les maires des grandes villes sont au courant. Et mon propos n'est pas une vision, on va dire, écolo-bobo ou utopiste. C'est réel. Toutes les grandes villes repensent le problème. Et une des choses qui est en train d'émerger, c'est le concept d'agriculture urbaine, qui s'articule autour de plusieurs axes. La première chose, c'est de couvrir les toits plats avec du maraîchage, avec des techniques de permaculture et autres qui sont extrêmement productives. On envisage de plus en plus également la conception de fermes urbaines dans des tours. Vous allez à Singapour, vous allez à Hong Kong, vous allez à Vancouver ou à Montréal, ils y sont déjà. Et puis c'est aussi la réaffectation des lieux publics. On va réaffecter en maraîchage ou en zone de maraîchage commune. Et puis aussi, c'est surtout repenser la ceinture verte autour des villes, avoir plus de micro-fermes plutôt que de maxi-fermes intensives. Ce n'est pas une vision utopiste, c'est en train d'arriver dans toutes les grandes villes parce que c'est nécessaire.
Par contre, et c'est là peut-être qu'il est difficile encore de convaincre aujourd'hui, vous venez de donner un exemple qui est un exemple très frappant, en disant que si Paris se retrouvait isolé, au bout de 4 jours, il n'aurait plus rien pour se nourrir. Tout un chacun vous dira, qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui, en 2015, couper Paris du reste du monde ? Donc, il y a une vision de réalisme qu'on n'a pas encore apporté dans ce message et qui est peut-être un défaut du changement d'ailleurs, ou de faire initier ce changement. C'est d'apporter plus de réalisme parfois dans les comparaisons.
Ben, le problème, c'est qu'on vit dans un monde qui est digital, qui est virtuel. Donc oui. Effectivement, on est connecté au monde en permanence partout. Vous avez des amis en Nouvelle-Zélande, à Bombay ou à Santiago du Chili et vous avez l'impression d'être totalement connecté, mais sur la réalité quotidienne, je vous garantis que si les transporteurs se mettent en grève, ils coupent les chaînes d'approvisionnement.
C'est vrai que quand Belgo Control est tombé en panne, on a eu un petit peu l'impression d'être isolé.
On aura ce problème dans toutes les grandes villes, ils le savent. Ouais. Je veux dire, je ne sais pas à quelle ampleur ce sera sur Bruxelles, mais c'est réel. Donc, ouais. Sur les besoins fondamentaux que représentent la nourriture et l'énergie, il n'y a pas besoin d'être virtuel, il faut être extrêmement concret. Et bon, imaginez demain que l'énergie se coupe complètement, on a parlé de lock-out ou qu'on n'a plus à manger, c'est vite le chaos dans nos rues. Ça semble loin de nous, mais il faudra 3-4 jours pour que ça arrive.
Et tout ce qui est rapide et parfois violence, c'est donc aussi avec violence que la réaction pourrait se faire dans ce genre de cadre. Vous parlez beaucoup, évidemment, pour retrouver cette forme d'autonomie. On l'a dit, de rendre la ville plus verte, à la fois en recréant ces espaces verts, en les dynamisant, en les rendant aussi beaucoup plus publics et au public, en leur donnant cet aspect public, mais également en recréant des fermes au sein même des villes. Alors, l'image peut-être première que vous en avez, c'est de créer une ferme avec une basse-cour au sein des villes. C'est évidemment pas du tout dans cet angle-là. Utilisons ce qui existe déjà, c'est-à-dire les toits, et pourquoi pas voir cette agriculture de manière verticale. C'est ce que vous dites qu'il faut penser aujourd'hui. Et en plus, c'est possible de le faire, parce qu'on a répondu déjà, et scientifiquement d'ailleurs, à toute une série de contraintes qui empêchaient peut-être cette possibilité. Aujourd'hui, l'impossible est devenu possible, justement. Et c'est là que vous rejoignez certainement Kennedy. On en reparle juste dans un instant. Guibert Delmarmol, restez bien avec nous. Et vous aussi, sans plus attendre, c'est paru chez Care Édition. On vous parlera de ferme justement à travers un reportage également de Lionel Francard.
Véronique Thiberguien, question clé. Jusqu'à midi sur la première.
Nous parlons d'économie régénératrice, parce que c'est bien le propos de cet ouvrage. Sans plus attendre, chez Care Édition, Guibert Delmarmol nous explique comment, et surtout que cela est possible, comment parler d'économie régénératrice. Avant de reparler des fermes dans quelques instants, l'économie régénératrice, vous dites, on parle beaucoup d'économie durable, mais on ne devrait pas, on est passé à côté. Parce que la notion de durable signifie qu'on aurait le temps, en même temps que penser. En termes de temps, oui, on n'a plus le temps. C'est plus justement, c'est pas là la question.
Non, je pense qu'il est trop tard que pour n'être que durable. On a déjà trop impacté la biosphère, notre écosystème, et on a déjà généré trop d'externalités négatives. Donc, une économie régénératrice, c'est une économie qui va générer plus de valeur qu'elle n'en consomme. Ouais. Et c'est possible, c'est en train d'arriver. Elle s'articule autour, pour moi, de 4 points majeurs. La première, c'est une économie relocalisée sur les fondamentaux que sont la production énergétique et la production alimentaire. On en a un peu parlé. C'est une économie collaborative. On en parle beaucoup. Hein, les wikis, open source, le crowdfunding.
L'éco-voiturage.
L'éco-voiturage, c'est l'économie du partage. C'est une économie également qui est fonctionnelle plus que de propriété. Fondamentalement, on n'a pas besoin d'avoir la propriété de beaucoup d'objets qu'on détient. On a besoin d'en avoir l'usage. Ça change beaucoup de choses.
Et circulaire.
Et voilà. Et donc, ça nous amène au quatrième point, qui est une économie circulaire où les déchets de l'un sont le combustible de l'autre et où tout est recyclable quasiment à l'infini. C'est en train d'émerger.
Et tout, effectivement, est recyclable. On a déjà montré aussi dans cette émission. On va parler des fermes dans quelques instants, bien sûr, parce que vous proposez des fermes verticales. Chez nous, au sein des villes, en utilisant notamment aussi les toits, mais le fait que nous avons des villes verticales, des villes avec des tours, où une partie de ces tours ne sont pas suffisamment utilisées. On a voulu s'intéresser à un autre phénomène chez nous. On est allé voir une ferme qui participe bientôt à la journée ferme ouverte. Et je vous propose un petit tour d'horizon.
Alors, on a une ferme très diversifiée, donc on traite des brebis. Donc on a élevage de moutons. On a des maraîchages, donc on fait tout ce qui est légumes de saison. On a aussi des céréales. On cultive une partie en bio et cette partie qui est cultivée en bio est transformée en farine.
Pourquoi se diversifier autant ?
En fait, on est diversifié, on fait de la vente directe. Comme ça, on est plus maître de nos prix. Et on essaye de gagner mieux notre vie comme ça.
Ce sont des choix importants et en même temps, c'est des choix peut-être plus respectueux aussi, d'abord de ce que vous êtes, aussi finalement du produit que vous proposez.
Oui, c'est ça. Donc nous, on est en agriculture biologique pour le maraîchage, pour les brebis, etc. Parce qu'on ne s'imaginait pas faire de la vente directe avec des produits pulvérisés. Maintenant, on n'a pas toute la ferme en bio parce qu'on vient du conventionnel et on se reconvertit petit à petit au bio. Et malheureusement, il y a les dettes du conventionnel qui sont là.
Oui, néanmoins, il y a vraiment une réflexion d'avoir une agriculture un peu plus raisonnée en tout cas.
Oui, tout à fait. Oui, oui. Si on pouvait passer toute la ferme en bio directement, on le ferait parce qu'on est convaincu qu'il y a moyen de faire l'agriculture sans les produits, sans tout ça. Le problème, c'est qu'on n'apprend pas à l'école à cultiver sans les produits. Donc, il faut réapprendre son métier, en fait.
À France Couvreur, vous participez ce week-end à cette initiative Fermes Ouvertes. L'idée, c'est un petit peu de recréer le contact avec le citoyen, celui qui mange et la ferme pour un petit peu se remettre au contact des produits. D'où vient le produit, d'où vient la viande qu'on mange, d'où vient le fromage et les légumes?
Oui, c'est ça. En fait, maintenant, les gens courent dans tous les sens et ils ont l'habitude d'acheter les plateaux préparés et ils ne savent plus trop d'où viennent les produits. Et même les enfants, d'ailleurs, ne savent plus trop. Et donc, c'est l'occasion de montrer que, ben oui, par exemple, maintenant, il n'y a pas beaucoup de légumes parce qu'il n'y a plus de légumes d'hiver. Les légumes d'été, il a fait froid, donc ils tardent à arriver. Et c'est un peu se remettre dans le concret de la vie des paysans, quoi.
Aussi, une volonté de rester local, de produire et de se dire, tiens, c'est la population environnante qui vient chercher les produits.
Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, Christophe et moi, on est persuadés, et beaucoup d'autres paysans de nos copains sont persuadés, qu'on peut vivre et nourrir la Wallonie avec la production locale. Maintenant, il n'y a pas encore assez de producteurs, mais plus il y aura de consommateurs qui demanderont et plus il y aura de producteurs qui feront la démarche de se lancer. Il y a tellement d'emplois à créer par rapport à l'agriculture et il y a tellement de gens au chômage que... Voilà, on est persuadé que c'est l'avenir.
Anne-France Couvreur, vous allez nous proposer quoi ici durant ce week-end, Fermes Ouvertes?
Alors là, il va y avoir plein de choses parce qu'on a aussi, comme on est en rapport avec le mouton, on a aussi une filature installée dans notre ferme. C'est la filature du hibou et donc on va présenter tout ce qu'il y a trait autour du mouton. Donc il y aura tous les artisans de la laine, il y aura démonstration de chiens de berger, il y aura démonstration de tonte aussi. Et des produits fromage, etc., à base de lait de brebis.
C'était Anne-France Couvreur de la ferme du Château à Bonnines, à quelques kilomètres de Namur, qui participera ce week-end à la journée ferme ouverte, des fermes que vous pourrez visiter à peu près partout en Wallonie. Elle était au micro de Lionel Francard. Eux, ils ont bien compris déjà, hein, les fermiers de chez nous, qu'il faut renouer ce contact-là.
Oui,
avec
ceux
la
qui
terre.
Sont en transition, oui.
Mais est-ce qu'on doit amener ces fermiers-là aussi vers les zones urbaines pour réinitier un changement?
Donc, il y a différentes choses. C'est qu'au niveau de la ceinture verte des villes, effectivement, je dirais, les agriculteurs conventionnels peuvent passer à autre chose. On parle de plus en plus d'un concept qui s'appelle les nimaculteurs. C'est les non-issus du monde agricole. Pablo oui. Servigne, que vous avez eu à l'antenne, en est un des chantres. On pense qu'effectivement, beaucoup de gens qui n'étaient pas issus du monde agricole vont venir au maraîchage et autres, ne fût-ce que 3 jours par semaine, à exploiter des parcelles et puis continuer à avoir d'autres métiers à côté. On doit continuer dans un pays comme la Belgique, bien sûr, à exploiter, mais à exploiter intelligemment. Donc l'exemple que vous avez donné est très important. Il est bien évident que le maraîchage ou l'agriculture de ville, comme on pourra la développer, c'est pas du tout pour répliquer les externalités négatives avec des intrants fossiles et autres. C'est pour faire des choses bio et durables. Et donc vous évoquiez le problème des tours, donc des fermes verticales. Il n'est pas question de faire des fermes avec 8000 vaches et autres. Aujourd'hui, ce sont des fermes qui existent à différents endroits, qui répondent à des grandes agglomérations. Je ne sais pas si Bruxelles est assez grand. Et qui permettent effectivement, sur certains plateaux, d'avoir de la production de maraîchage totalement bio.
Jusqu'à présent, on exploite beaucoup les toits. En tout cas, on initie une exploitation des toits. Mais vous dites que ce n'est pas assez. Il faut voir plus en hauteur pour avoir aussi un rendement, puisque vous parlez d'autonomie financière et alimentaire de ces villes, pour avoir un vrai rendement. Les toits, ça ne suffira pas.
Je ne pense pas, ça dépend de la taille de la ville, mais les toits ne suffiront pas. C'est pour ça que de plus en plus de villes pensent à des fermes verticales, celles qui sont contraintes le plus, comme Hong Kong, Singapour ou Montréal, y sont déjà. Mais comme je vous dis, c'est un faisceau de solutions. C'est des toits verts, c'est certaines fermes verticales, c'est la réappropriation d'espaces publics qui étaient laissés en friche, et c'est certainement de repenser la ceinture verte autour des villes.
Tout cela, vous le dites aussi, et vous l'expliquez très bien dans ce livre, ne nous coupera pas du reste du monde, bien au contraire. Vous voyez dans l'avantage, comme avantage de la mondialisation, pardon, l'échange des savoirs, on gardera cette notion d'échange, quoi qu'il en soit.
Oui, moi je ne suis pas pour une solution purement locale, je suis pour une solution que j'appelle glocale. Il faut rester au niveau global pour être connecté. Il y a une conscience collective qui est en train d'émerger au travers des réseaux sociaux et autres. Et l'échange et l'accès au savoir est juste incroyable, mais il y a beaucoup de choses qu'on doit pouvoir refaire localement.
Et c'est possible de le faire.
Et c'est possible, c'est en marche.
Vous le montrez dans cet ouvrage. Pour en savoir plus, pensez verticale, étagée, et pensez aussi zone verte, zone bleue. Il existe à Bruxelles, quand même, tout seigneur, tout honneur chez nous, la zone verte et bleue sur laquelle travaille beaucoup la région bruxelloise et qui a initié tout à fait ce genre de choses depuis un certain nombre d'années aujourd'hui. Ça s'inscrit totalement dans ce cadre, dans ce cadre-là. Il y a donc effectivement des choses qui se passent chez nous aussi. Le changement est en route, est en cours, mais sans plus attendre. Votre livre est paru chez Kerr Édition, Guy Berdel-Marmol. Vous avez l'intention de continuer le combat, ça j'en suis sûre, puisque c'est déjà votre deuxième livre un peu sur cette notion du changement. Là, vous parlez beaucoup de la ville. Quels seraient l'autre ou les autres obstacles à surmonter ou les autres champs à défricher pour que le changement s'initie réellement ?
Je pense qu'on a un problème au niveau mondial, un problème de gouvernance. On a un problème de démocratie. Je veux dire, nos modèles démocratiques, il faut pouvoir les repenser. Avec une démocratie plus participative, ils ont été conçus, les constitutions ont été conçues au 18e, 19e siècle, et le monde a beaucoup changé. Et donc, voilà, c'est une réflexion que je mène. Peut-être que je reviendrai à votre micro pour en parler.
On reparlera peut-être des amateurs qui arrivent au pouvoir aujourd'hui, notamment en Espagne et dans d'autres pays, qui initient aussi ces changements. En tout cas, merci d'être venu dans cette émission et bonne continuation à vous. Je rappelle, sans plus attendre, c'est chez Kerr Édition, Guy Berdel-Marmol. Merci, belle journée.
Merci, bonne journée.